Je vais prendre la continuité de la première intervention à partir d'un constat qui fait que aujourd'hui il y a beaucoup de débats qui agitent le monde de la foresterie avec des difficultés par rapport à la mise en place de la gestion forestière et des plantations qui font débat et qu'on a parfois du mal à s'expliquer. Avec un autre constat aussi, celui d'un attachement de plus en plus qui se manifeste de manière très visible à l'égard des forêts et des arbres, et qui peut aussi être un élément explicatif de ces tensions, et aussi peut-être un point à souligner, le développement de la diffusion de théories New Age, d'une hyper-médiatisation des imaginaires et des particularismes culturels, qui tend à faire des arbres aussi des personnages un petit peu singuliers, et qui pourraient expliquer cet attachement qu'on leur accorde. Alors, tout ceci pose la question aussi de la place symbolique de l'arbre dans notre société. Mais pour aborder ces questions des enjeux symboliques des arbres, je voudrais faire un petit rappel préalable qui me semble important. C'est la manière dont en anthropologie on utilise ce terme de symbolique, qui est inspiré des travaux de Claude Lévi-Strauss et de Daniel Fabre, et qui en délimite véritablement toute la portée culturelle. Dans la manière dont on l'aborde, il ne s'agit pas d'envisager une pensée figurative, abstraite et complètement décontextualisée, qui ferait que l'arbre serait un individu un peu magique et qui se prêterait aux ésotérismes, mais de saisir la manière dont une société organise son rapport aux arbres à travers des liens taxonomiques, des catégories, des oppositions dans les représentations, leurs ordonnancements, et qui peuvent être ainsi explicatifs d'une cohérence globale et expliquer un rapport aux arbres plus général dans cette même société. De mon côté, je vais me limiter ici à une approche des usages sociopolitiques des arbres et des forêts et de cette portée symbolique telle qu'ils se manifestent aujourd'hui en France, mais aussi tels qu'ils sont le fruit, en quelque sorte, d'une histoire de France plus longue du rapport à la plantation des arbres. Alors, je vais faire un premier balayage historique très rapide pour rappeler quelques éléments de ce contexte. Tout d'abord avec celui des arbres de naissance, comme vous voyez sur ces images, qui sont une pratique qui reste très, très active dans notre société. Elle s'est démocratisée en particulier à l'initiative des laboratoires Ligose dans les années 70. Et donc, à la naissance d'un enfant, on aime bien planter un arbre qui va accompagner ainsi la croissance de l'individu qui vient de naître. Cette pratique est très ancienne. Il y avait une tradition de plantation d'un arbre à l'occasion de la naissance des puissants, des princes, des rois, et qui s'est donc largement démocratisée à notre époque. L'arbre, dans ce cas, a une importance particulière puisqu'il marque une recomposition de la famille, un changement des places entre les individus qui la composent. Et l'être vivant qui va grandir comme l'enfant nouveau venu, trait qui joue en faveur d'une vision anthropomorphique de cet arbre. L'arbre est aussi associé à tout un imaginaire de la parenté, à travers les représentations qui sont données à la parenté, en particulier avec l'arbre généalogique. Donc une tradition également très ancienne. Donc, comme vous le voyez sur ces images, et qui perdure aussi aujourd'hui, puisqu'on reconstitue toujours, on organise toujours la parenté grâce à ce modèle de l'arbre. Un troisième élément, pardon, constitué à travers la notion d'arbre de la liberté, une invention de la Révolution française, qui a voulu que pour marquer justement cet attachement à la liberté pour la nation, on a lancé une nouvelle tradition, celle de la plantation de ces arbres, alors qui permettent d'enraciner pour une collectivité donnée un arbre auquel tout le monde va pouvoir se retrouver et adhérer, avec un message qui se veut universel, celui de la liberté, et qui va être un arbre du rassemblement, en fait, de la communauté autour, autour de cet arbre singulier. Et un quatrième élément traditionnel également, ce sont les arbres de mai. Ces arbres, alors là, qui étaient chargés d'un message différent des arbres de la liberté, puisqu'il s'agissait au contraire d'énoncer une critique de la société, enfin du groupe vis-à-vis de certains de ses membres, devant lesquels on plantait un arbre avec une des décorations qui permettait de divulguer en quelque sorte un message à son encontre pour formuler une sorte de critique sociale. La caractéristique de ces arbres de mai, c'est que cette fois-ci, on n'est pas dans des arbres avec des racines, comme dans le cas des arbres de la liberté. On plante donc des arbres qui ont été coupés et qui donc vont disparaître également dans l'année qui suit, puisqu'on va les enlever. Pratique que l'on retrouve également à travers les sapins de Noël, que l'on peut aussi planter dans les villes aujourd'hui. Et les arbres de mai existent encore dans certaines régions à notre époque, en France. Donc, on a des arbres avec racines, des arbres sans racines, dont la portée n'est pas du tout la même. Les arbres sans racines ont été coupés et seuls leurs troncs sont enfouis dans le sol. Ils vont donc se dessécher et être retirés finalement rapidement, puisque leur message est amené aussi à disparaître. Donc, le message doit disparaître comme l'arbre lui-même. Leur décor participe à une critique sociale des sujets qui le désignent. Et l'arbre, dans ce cas, est l'instrument d'une pensée communautaire qui permet au groupe de s'ausculter et d'évaluer ses propres membres périodiquement. Excusez-moi. Mais ces arbres de mai sans racines, qui sont le symbole d'un État qui ne doit pas perdurer, s'opposent de cette manière aux arbres de la liberté, qui, eux, par contre, de taille plus modeste au départ, vont croître et survivre aux individus qui les auront plantés. Ils sont plantés pour signifier une valeur universelle et donc constituent une des archives vivantes qui donnent à voir aussi la pérennité du groupe autour de cet arbre, et leur vitalité permet d'incarner en quelque sorte la continuité de ce collectif. Alors, ces plantations symboliques et leurs usages politiques s'inscrivent dans une démarche de mise en visibilité d'un consensus, et ceci a été aussi particulièrement visible en 1999 à l'occasion de les grandes tempêtes dont certains d'entre vous se rappellent certainement, qui avaient causé d'importants dégâts sur l'ensemble des massifs forestiers en France. Mais plus particulièrement, ou en tout cas tel que ça a pu en devenir l'emblème, dans le parc du château de Versailles. Cet événement a causé une grande émotion et a fait réagir des personnalités du monde entier qui se sont mobilisées pour aider à la replantation, ce qui a valu à l'établissement public de lancer une campagne de souscription formulée dans les termes de la possibilité d'adopter des arbres dans le parc du château de Versailles. Donc, cette notion d'adoption de l'arbre à replanter n'est pas anodine, puisque l'on voit bien qu'elle réintroduit aussi l'arbre en quelque sorte dans la famille, et on retrouve cet imaginaire de la parenté aussi auquel se prêtent bien sûr les arbres dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, des personnalités se sont liées à cette, sont associées à cette cause. Et on a pu ainsi voir défiler tout un ballet de personnalités dans le parc du château de Versailles. Donc là, vous voyez Adriana Karembeu plantée dans le parc, un tilleul qui a été offert par le président slovaque au mois de décembre 2000, donc à peu près un an après la tempête. Dans cette mobilisation, on voit s'associer des personnalités diverses. Donc, comme vous le voyez dans l'appel à souscription que je vous montre ici, il s'agit à la fois de personnalités du monde du spectacle que de personnalités politiques, voire de grands chefs d'entreprise, unis autour de ce consensus de la plantation de l'arbre. Cette tradition républicaine aussi d'instrumentalisation politique de l'arbre est reprise périodiquement. Et ici, vous voyez le Premier ministre plantée comme le veut la nouvelle tradition instaurée par Raymond Barre dans les années 80, si je me souviens bien, de planter un arbre dans les jardins de Matignon. Donc ici, Édouard Philippe qui plante un pommier claque-pépin, donc avec une symbolique associée à l'essence choisie par la personnalité politique au cours de cette plantation et dans laquelle sont associées les générations futures. Donc on voit ici une classe de CM2 qui vient accompagner le Premier ministre dans la plantation. Donc ces attachements aux arbres se manifestent aussi sous la forme de mouvements de contestation qui peuvent être très forts. Et depuis les années 90, on a vu la naissance d'un éco-activisme particulièrement actif, en particulier autour de la forêt de Fontainebleau, avec la naissance du mouvement des éco-guerriers. Mais aujourd'hui, il n'est pas je pense, beaucoup de communes en France qui n'échappent à des contestations qui peuvent accompagner. Alors là, il ne s'agit pas de plantation, mais au contraire des abattages d'arbres urbains tels que. On peut le voir à l'échelle internationale. Ah, là, je suis passée trop vite et je ne sais pas revenir en arrière. Donc, dans toutes les communes de France, régulièrement, des abattages d'arbres, de platanes, de tilleuls, créent des mobilisations qui font que l'on s'insurge contre la disparition de ces arbres. Donc, tout ça, donne lieu à des conflits de plus en plus fréquents. Et c'était il y a 2 ans maintenant, non, il y a un an, nous avons organisé une journée d'études sur ce thème-là et nous avons été frappés du succès de notre appel, puis, qui montre aussi toutes les passions qu'il peut y avoir autour des arbres aujourd'hui, avec des contributions du monde entier, en fait, qui posent bien la question de cette. Attention aux arbres aujourd'hui. Alors, comment l'expliquer? Un phénomène, cet enjeu de la plantation questionne finalement l'action humaine. Depuis les années 2000, la notion d'anthropocène a établi l'idée d'un parallèle, en quelque sorte, entre l'action humaine sur la nature et la destruction de la nature. Et si vous livrez un petit jeu sur Google et questionnez votre moteur de recherche en lui demandant quelles images peuvent ressortir de la destruction de la nature, on est frappé à ce moment-là de voir aussi la place que les arbres occupent dans cet imaginaire de la nature. Vous le voyez sur ces images, je crois qu'il n'y en a qu'une dans laquelle. Il n'y a pas d'arbres qui figurent pour représenter cette destruction de la nature. Et on voit le coupable, l'humain, qui est destructeur et qui vient couper ces arbres. Donc cette perception d'une action humaine comme destructrice implique une forme de renversement du fer. Du rôle que l'humain peut avoir sur la nature, puisque on passe en quelque sorte d'une idée de l'humain qui est en quelque sorte un être qui va permettre d'organiser la nature et d'avoir finalement un rôle positif, à cette vision d'une action qui va être nécessairement destructrice sur la nature. Donc, on a un renversement important puisque avec le XXe siècle, ce n'est plus finalement l'homme qui, enfin la nature qui fabrique l'homme, hein, qui va permettre d'expliquer les particularismes de l'humanité, mais au contraire l'homme qui vient détruire la nature. Ce renversement, on le voit. Est majeur puisque à l'époque classique, l'idée est complètement différente puisque l'action humaine permet de dompter la nature. Donc, comme on le voit sur ce modèle du jardin classique tel qu'il est organisé de manière emblématique à Versailles. Donc, on va dompter en architecturant en quelque sorte le végétal, ou au contraire, on va fabriquer le sauvage. L'humain va être celui qui va pouvoir mettre en forme le sauvage à travers le modèle du jardin anglais que vous avez pu voir rapidement, qui se double à partir du 19e siècle d'un rapport différent au monde des forêts. Puisque on découvre, Charles Barthes découvre la photosynthèse au 19e siècle, et on va progressivement voir l'Amazonie et les forêts comme un poumon vert de la planète, et donc l'organisme en quelque sorte respiratoire de l'humanité tout entière va se venir s'incarner dans les forêts. Alors, tout ceci, ce renversement du fer, est aussi lié aux visions que l'on peut avoir en France et en Occident de la gestion des ressources de manière plus générale, avec, après la Seconde Guerre mondiale, une transformation de ce fer avec la nature, avec finalement deux modèles qui vont progressivement, en quelque sorte, cheminer en parallèle avec le modèle communautaire, traditionnel, et qui renvoie aussi, je vous ai mis ces images parce qu'on voit aussi toutes les esthétiques différentes auxquelles cela renvoie, de cet usage traditionnel des ressources, qui est porté par les mouvements néo-ruraux à partir des années 70. Et au contraire, la logique industrielle, collectiviste, qui amène à une gestion d'espace de plus en plus important par une seule personne, un seul individu, à grand renfort de mécanisation et de produits chimiques. Donc, on a deux modèles de gestion des ressources qui viennent finalement s'opposer. Excusez-moi, une petite erreur de diapo, qui questionne aussi la place des arbres en tant qu'objet du patrimoine. Alors, à partir des années 90, on envisage la possibilité qu'il puisse y avoir un nouveau rapport au vert, et Françoise Dubost parle alors de patrimoine vert, qui expliquerait en fait cet attachement dont font l'objet les pratiques vertes, en fait, et dont on peut voir par l'intermédiaire du jardinage, les festivals autour des jardins, mais aussi à travers l'attachement aux arbres. Cet attachement se manifeste aussi avec l'invention de nouveaux labels, label forêt d'exception, où la forêt apparaît aussi comme un élément du patrimoine. Donc, les forêts deviennent des objets d'affection collectifs et qui peuvent susciter d'autant plus de passion. Mais pour comprendre cette vision patrimoniale, il me semble qu'il est important de la recontextualiser dans l'histoire, la recontextualiser dans l'histoire de France, puisqu'elle est aussi intimement associée à une autre notion, celle d'aménagement du territoire, puisque la gestion forestière elle-même est née sur les terres versaillaises, on y revient, au XVIIe siècle, avec la mise en place de la grande réformation forestière par Colbert, qui est associée à justement un nouveau modèle de gestion du territoire, avec l'idée que pour avoir des ressources en bois suffisantes pour les générations futures, il faut mettre en place une politique de gestion centralisée et qui va permettre de sauvegarder en quelque sorte la ressource pour les générations futures. Or, cette idée de penser une ressource pour les générations futures est aussi l'idée d'une invention de la notion de patrimoine au sens collectif, puisqu'on retrouve exactement les mêmes principes de sauvegarde et de projection dans le futur de cette ressource qu'il faut préserver. Donc, avec cette politique d'aménagement, se met en place aussi le modèle versaillais, donc cette politique centralisatrice qui va organiser tout le territoire de la France et s'organiser aussi avec la possibilité de conquête coloniale, ce pourquoi il faut préserver la ressource forestière, puisqu'il s'agit d'alimenter la construction des bois de marine. Donc, ceci a des incidences sur la manière dont on va envisager la gestion forestière avec un passage de la sylviculture en taillis à une sylviculture en futaie qui implique donc de laisser croître les arbres bien plus longtemps et de pouvoir du coup les sauvegarder sur au moins 2 générations puisqu'on passe d'une gestion de rotation sur 20 ans pour ainsi dire à une gestion centennale. Donc tout ceci m'amène à, pour conclure, à préciser ce que j'entends par objet d'affection appliqué aux forêts en général et aux arbres en particulier. À l'échelle de l'individu, ce à quoi on tient, c'est ce à quoi on porte une attention et que l'on désire par conséquent conserver. Ça implique une valeur affective qui est accordée aux arbres. L'arbre devient un élément qui touche les individus. Donc, il y a une forme de contact avec les arbres qui devient immédiatement réversible. Et on le voit là au propre, tel qu'il peut être mis en place dans les pratiques récentes de sylvothérapie. Donc, il y a une expérience sensible de l'arbre et de la forêt associée à un mélange d'odeurs, de ressentis kinesthésiques, d'appréhension visuelle, corporelle, qui mobilise d'autres expériences affectives qui sont ancrées dans l'enfance. Qui peuvent être associés aux souvenirs de promenades familiales, mais aussi à l'imaginaire des contes de fées ou d'autres découvertes culturelles. Et donc, s'agissant de souvenirs personnels et intimes, leur redécouverte fait naître une émotion qui justifie en retour le besoin de mettre en place une conservation. Et donc, cette plantation participe à ce besoin et ce désir de conservation, mais sans doute on le verra au cours de cette journée, à condition que cette plantation aussi corresponde avec cet imaginaire de l'arbre tel qu'on le souhaite et la manière dont on peut souhaiter voir l'arbre idéal en fait se développer à nos côtés par la suite. Donc cette force des arbres et des forêts est importante. Alors une autre anthropologue l'a démontré à travers les contes de fées. Yvonne Verdier a envisagé le passage socio-biographique qui accompagne les héros des contes. Elle a remarqué que ces héros traversent bien souvent une forêt et que ce passage dans la forêt est essentiel puisque nul retour en arrière n'est alors possible. Et qu'au fil de ce passage et des rencontres qui vont être faites par les héros des contes dans les forêts, il va y avoir une transformation du personnage, transformation socio-biographique, comme celui de l'accès à la virilité ou à la féminité, autrement dit, une transformation de la prise sur le monde. Yvonne Verdier écrit: Le passage en forêt va révéler aux êtres les grands traits de leur destin. Et c'est en cela qu'il a une portée initiatique, explique-t-elle. Donc, penser la forme d'une forêt, ses éléments constitutifs, renvoie de la même manière à penser le devenir finalement des sociétés qui les désirent, qui les pensent, qui pensent leur présence. Donc, penser aussi l'avenir des forêts, c'est donc penser le futur d'une société dont, bien sûr, on souhaite toujours qu'elle puisse être meilleure, surtout en ce moment. Comme l'invite à le faire la proposition d'Edouard, il importe donc de saisir la manière dont les forêts interviennent dans un dispositif plus largement identificatoire et plus vaste, et comment leur présence, à travers des manières de percevoir, infléchit finalement aussi toute notre conception du monde, et ce qui peut expliquer aussi ces passions qui entourent aujourd'hui les forêts et les arbres et leurs plantations. Voilà, je termine là-dessus. Je vous remercie pour votre attention et j'attends vos questions avec plaisir.